nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page sur Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Norman Ginsberg. Bonjour Norman.
Bonjour.
Avec qui nous allons vous présenter son roman intitulé Le mystère Walter Baumer et publié aux éditions Priva. Alors, c'est la première fois que vous venez à Page
tout à fait
sur Radio Occitanie, mais ce n'est pas votre premier livre.
Non, j'en ai commis quelques-uns. Et j'en commets d'autres puisque j'ai deux romans qui sont prêts à être édités, donc la production se poursuit un rythme soutenu. Oui.
Alors on peut citer Omaha, on peut citer aussi Les Captifs de la Vallée de Zion et également Arizona Tom.
Oui, tout à fait, Arizona Tom qui est le premier livre que j'ai écrit sous le nom de Norman Ginsberg et qui a eu pas mal de prix, dont le prix du livre de poche 2015.
D'accord, oui, un livre que j'ai lu d'ailleurs et que j'avais bien aimé, qui est vraiment purement, enfin, entre guillemets, dans la tradition américaine. Voilà, ça se passe au temps des westerns,
oui,
si on peut
mais
dire.
Au temps des westerns, mais en fait, c'est surtout une histoire de.
Oui, c'est
une histoire d'amour entre
un
vieux shérif bourru, alcoolique et un jeune handicapé qui est sourd et muet et qui est accusé de meurtres dont on ne sait pas s'il les a commis ou pas. Et donc, c'est surtout ça.
Alors,
comme en France, on aime bien les étiquettes, on m'a mis dans la catégorie western, mais pour moi, c'est surtout une histoire entre en plus, c'est un livre qui m'est très très cher, celui-là, parce que, en fait, c'est né d'un cauchemar que j'ai fait.
Bon
oui, tout à fait, oui. Je me suis réveillé en pleine nuit, en sueur, avec le cœur qui battait. J'avais une vision où j'étais sur un cheval, parce que j'adore le cheval, j'en ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune. J'étais au-dessus d'un désert qui était traversé par un gamin qui avait 14 ans, 13-14 ans, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon fils aîné. Et ce gamin tirait un cadavre sans tête et sans bras et sans jambes. Et c'est ce qui a inspiré
l'histoire d'Arizona Tom, justement. Voilà. Et donc, de très belles descriptions, je me souviens de très belles descriptions de ce désert.
L'Arizona, oui.
Voilà. Alors, vous avez été journaliste à la Dépêche du Midi.
Oui, tout à fait, oui. Pendant 23 ans,
directeur
de la rédaction.
De la rédaction. Alors, ce métier, d'ailleurs, on le retrouve dans ce roman dont on va parler. On va le voir tout à l'heure. Tout comme le Gers également, on le retrouve dans ce livre. Et c'est le Gers que vous affectionnez, que vous aimez.
Ah oui, oui, je me suis plongé. Il se trouve que j'ai des origines rurales, puisque j'ai toujours vécu à la campagne, dans la campagne profonde en Normandie dans ma jeunesse. Et dès que j'ai eu l'occasion, ici, que je suis à Toulouse depuis quelques décennies, mais dès que j'ai pu, j'ai acheté une vieille ferme où je vis au paradis avec mes animaux, mes arbres, mon potager, mon verger, etc.
Donc on retrouve tout ça
dans
ce livre. Il y a des choses donc de votre vie, je dirais.
Totalement, totalement. Jusqu'au nom de mes deux ânes, de mon chat, même si j'ai 8 chats, je ne parle
Wilson
que...
le chat et voilà. Castor et Pollux pour les ânes. Voilà. D'ailleurs, on les aime beaucoup. Hein. Le lecteur apprécie. Et puis d'ailleurs, le narrateur du livre les apprécie aussi. Il trouve du soutien auprès
Absolument.
D'eux d'ailleurs aussi. Alors, vous écrivez en tant qu'auteur donc avec le pseudonyme de Norman Ginsberg.
Oui, tout à fait. C'est le Ginsberg, c'est le nom d'origine de la famille que j'ai repris à cette occasion.
Alors, le mystère Walter Baumer, donc, en prélude, on peut lire ce proverbe Sioux Lakota, que j'aime beaucoup d'ailleurs, pour sa justesse et pour l'image. Pour pouvoir juger son frère, il faut avoir marché longtemps dans ses mocassins.
Tout à fait.
Et je trouve que c'est, forcément, ça colle parfaitement. au livre, enfin à l'histoire qui se déroule dans ce roman.
Oui, encore une fois la difficulté de porter un jugement équitable avec des années de recul sur des événements qui sont produits en l'occurrence pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, on va en parler. Voilà, ça se situe dans les années 70, mais avec une plongée dans les années 40. Alors c'est un roman que j'ai bien sûr bien aimé puisque bon, je présente mes coups de cœur, donc c'en est un. Donc c'est un roman à la trame originale avec du suspense et de nombreux rebondissements. Menée un peu comme une enquête dans l'histoire avec un grand H et dans l'histoire aussi d'un homme, Walter Baumer. Donc c'est un roman avec des clins d'œil et puis également de l'humour, des lieux avec des belles descriptions et notamment le Gers. Et puis des personnages hauts en couleur, pleins de caractère et de vécu et qui sont pour la plupart attachants. Et puis deux périodes qui se côtoient, celle des années 70 et puis celle des années 40 avec donc la guerre. Et puis il y a de l'occitan aussi dans ce livre avec de nombreux mots et expressions dont la traduction, heureusement pour moi, figure en bas de page. Parce que je ne maîtrise pas forcément bien l'occitan, je devrais peut-être pas le dire, mais c'est ainsi. Alors c'est un roman plein d'humanité et auquel on repense après la lecture. Il ne laisse pas indifférent.
Oui, avec parfois ça a suscité de véritables quiproquos, puisque j'ai eu plusieurs lecteurs et lectrices qui ont pris contact avec moi parce qu'elles avaient cru reconnaître des personnages parmi ceux que je décrivais et une autre dans les Landes qui avait vécu dans sa jeunesse dans le Gers me disait qu'elle reconnaissait une histoire analogue, etc. En fait, c'est une pure fiction,
voilà, il faut le préciser,
mais avec qui puisse quand même son essence dans des faits qui se sont produits, en l'occurrence l'occupation allemande en Gascogne.
Dans le Gers,
absolument.
Dans cette région, tout à fait. Alors, ce roman commence le 8 mai 1975 et se termine le 17 mai de cette même année. Alors, chaque chapitre amène au jour suivant. Alors, ce sont deux semaines pour une histoire pleine de situations diverses et une plongée dans le passé. Alors, le début de cette histoire surprenante, c'est donc le 8 mai 1975, dans un village du Gers, dont le nom, vous l'avez inventé, ça s'appelle Castelsoulan. Et le narrateur, Spencer Schulman, au lendemain d'une soirée bien arrosée à l'Armagnac, voit apparaître en fait sur la terrasse de sa ferme un homme coiffé d'un casque allemand et d'un uniforme de l'armée allemande, le jour même du 30e anniversaire de la capitulation du Troisième Reich. Alors au début, Spencer croit d'abord à une blague de potage de ses deux amis d'enfance, dont justement Jean-Jacques, qui est ingénieur aérospatial et qui est passionné, tout comme lui, de la période de la Seconde Guerre mondiale, ou alors à un canular, ou alors à un fou échappé d'un hôpital psychiatrique. Et en fait, non, l'homme va se présenter, Walter Baumer, 52 ans, sergent dans la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui a combattu donc en Russie et dans le sud-ouest de la France.
Oui.
Ça,
c'est le point de départ. Ouais. Et c'est vrai que
c'est
paraît
surprenant comme histoire.
C'est surprenant et tout mon travail. Et c'est là que je suis content de l'avoir. Je pense d'avoir réussi. C'est à partir de cette image complètement loufoque, invraisemblable. Ben de la rendre totalement crédible et d'expliquer comment ce type, 30 ans après la fin de la guerre, pour des raisons sur lesquelles peut-être vous voudrez revenir, s'échappe de sa prison à ciel ouvert, revêt son uniforme et essaie de prendre attache avec la société, en sachant que, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a eu dans le monde des exemples comme celui-là, et notamment en 1974, un soldat japonais qui a été retrouvé sur une île des Philippines où il continuait à... Il pensait que la guerre se poursuivait 30 ans après, et ce sont les Japonais qui ont réussi à le persuadé, avec son ancien colonel qui est venu le lui dire, que la guerre était bien terminée. 30 ans après, il était persuadé que la guerre se poursuivait. Parce qu'il était complètement conditionné.
Ça vous a inspiré, du coup?
Ah oui, totalement, oui. Ça m'a inspiré, oui.
Oui, c'est vrai que ça paraît complètement incroyable.
Ça m'a inspiré, et puis il y a un autre élément, puisque vous parliez très justement de la nature, de l'environnement, des paysages. Le point de départ, c'est... j'habite sur une colline, et le matin, je suis un grand contemplatif. Je suis pas que contemplatif, mais j'ai des moments de grands moments de contemplation. Au bas de chez moi coule une rivière qui s'appelle la Gimone, et de temps en temps, notamment au printemps, il y a des écharpes de brume qui font qu'une partie de la colline est plongée dans le brouillard. Et un matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire sortir de ce brouillard?
De ce brouillard.
Et c'est comme ça que le bouquin
que Walter est arrivé, voilà. Sur votre terrasse, voilà. En bois. Alors, on apprend qu'avant d'être fait prisonnier, donc il a combattu, comme je le disais, et avant d'être fait prisonnier donc par des maquisards à Montauban, hein, donc juste à côté, et qu'il a servi en fait comme valet de ferme chez celui dont le père, qui était résistant, avait été exécuté.
Absolument.
Donc en fait, ce fermier, qui l'a quelque part séquestré, enfin qui l'a gardé en captivité, lui a fait croire que la guerre n'était pas finie.
Exactement.
On en vient là, que la Russie avait même envahi l'Allemagne et qu'on tuait tous ceux qui essayaient de rentrer chez eux. Donc c'est pour ça, ça le maintenait forcément dans la
Absolument,
ferme.
Absolument.
Ça
tout
ne poussait pas à s'échapper.
Et on lui disait aussi que son propre frère était retenu sur une autre ferme et que si lui tentait de s'en aller, son frère serait tué immédiatement.
Donc forcément, voilà. Il restait là.
Et en plus, il y a ce côté propre aux Allemands, aux soldats allemands du Troisième Reich, extrêmement obéissants, les ordres sont les ordres. Et donc c'est la raison pour laquelle il est complètement prisonnier de cette supercherie. Et ça va marcher pendant des années.
Pendant plus de 30 ans. Voilà, 30 ans. Et jusqu'à temps qu'il sort du brouillard et qu'il arrive sur la terrasse de Spencer, et après s'être évadé de la ferme. Et il vient chez Spencer parce qu'en fait, il se rappelle que la mère de Spencer, qui était médecin et une résistante très active pendant la guerre, l'avait soignée en 1944 pour une insolation. Donc
exactement.
Il vient là, pas par hasard finalement.
Non, tout à fait, pour trouver refuge. Oui.
Voilà. Alors c'est une histoire des plus surprenantes, hein, on s'en doute, et une situation plutôt cocasse pour ce 8 mai 1975, au réveil de Spencer, et qui en plus attend, lui, les parents de sa compagne Rebecca pour déjeuner. Donc on imagine la scène, vraiment, il se réveille après,
oui, qui sont juifs en plus,
entre guillemets, à l'Armagnac, il attend les beaux-parents, et il y a ce soldat allemand qui sort du brouillard et qui apparemment n'est pas au courant des 30 ans qui viennent de se passer.
Absolument.
De tout ce qui s'est passé pendant 30 ans. Alors lui, Spencer lui fait un cours d'histoire en accéléré de 1945 donc à 1975. Alors on sourit parce que quand Walter découvre la télévision, l'aspirateur, la platine, et puis le lecteur redécouvre aussi en même temps que lui tous ces objets qui ont marqué les années 70. On sourit aussi quand il découvre le frigo et sa petite lumière. Ça. Et puis Spencer lui parle aussi de la guerre d'Algérie qui s'est passée, de l'homme sur la lune, de mai 68, et puis du rock'n'roll également.
Ah oui, il est totalement.
Déphasé,
je me suis amusé avec ça beaucoup,
puisque
bon.
C'est un passage où on sourit, qui est amusant.
Ouais.
Et puis il lui parle aussi de la RDA, dont la province natale de Walter fait partie. Et oui, on est en 1975 et le mur est encore
bien présent à cette
époque. Alors, mais qui est réellement Walter? C'est la question que se pose Spencer, cet homme qui épluche les patates dont il raffole avec une dague signée de la croix gammée et qui semble ignorer les nombreux massacres qui est perpétrés notamment dans la région du Gers. Et donc Spencer, qui est journaliste lui aussi, se pose beaucoup de questions sur la sincérité de Walter et va décider de mener une enquête.
Oui, parce que il y a eu dans la région, alors pas spécialement dans le Gers, mais En tout cas, dans le sud-ouest de manière plus large,
il
y avait stationné une division à la sinistre réputation qui s'appelait la division Das Reich, celle d'ailleurs qui a commis les massacres d'Oradour et de Tulle. Et il y a eu dans mon histoire, il y a dans un village qui s'appelle Roquefabre, qui n'existe pas, ne le cherchez pas sur la carte, il y a eu un massacre. Et mon héros va chercher à savoir si ce Walter était ou non impliqué dans ce massacre.
Massacre de civils.
Absolument.
Hein,
ça va devenir une véritable obsession pour lui. Mais une obsession, il faut être journaliste pour la comprendre. Même si je ne suis plus journaliste depuis longtemps, je dis toujours journaliste un jour, journaliste toujours. Mais il y a des moments chez un journaliste, la quête de vérité devient obsessionnelle. Et mon héros, il abandonne tout, son boulot, etc.
Il va faire une croix sur sa vie personnelle.
Absolument.
Avec Rebecca, sur son travail justement au journal, au Courrier du
Midi,
dans lequel il est journaliste. Même ses amis d'enfance, il ne les voit plus non plus.
Personne, obsédé par ça.
Il est obsédé par ce soldat.
Il veut savoir,
il veut connaître la vérité sur l'implication de cet homme. Spencer a envie de croire Walter, qu'il a envie de lui faire confiance. Et puis en plus, il l'apprécie en tant qu'homme. Il éprouve une certaine, je dirais, compassion amicale à son égard. Il partage des repas avec des bons produits locaux, des bons vins, des bons alcools, même ses cigarillos qu'il partage avec lui.
Il a une relation très contrastée, parce que d'un côté, c'est pas un fan du Troisième Reich et du nazisme, bien sûr, mais il essaie de comprendre, il veut accorder à Walter le bénéfice du doute. Est-ce qu'il a ou pas participé à ce massacre?
Tant qu'il ne le sait pas, il le garde chez lui.
Absolument.
Donc en attendant, Walter fait des petites bricoles, sa maison, et lui, il mène l'enquête pour démêler le vrai du faux. Et également, donc il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui est très important d'ailleurs dans cette enquête pour Spencer, c'est Lucien.
Oui.
Cet ancien instituteur et ancien résistant qui a un passé assez très actif et très sombre, et qui est un sage, je trouve. Il a une sagesse et une bienveillance qui sont très importantes pour Spencer et pour son enquête.
Oui, et c'est un esprit qu'on retrouve souvent chez les Gascons. Alors, je suis pas Gascon, mais je vis parmi eux depuis quelques décennies. Ce sont des gens qui sont en général bienveillants, tolérants, ouverts. Et ce personnage de Lucien, c'est un peu un concentré de beaucoup de vieux Gascons que j'ai connus et que je côtoie.
Donc ce Lucien, et on aime bien ce personnage. Et puis comme on aime bien aussi d'ailleurs la collection de vieilles voitures dans la grange de Spencer, héritée de son père américain. Alors il y a toute une on aime bien aussi toute cette collection. C'est vrai ça ?
J'en ai pas autant, ouais.
Ah, vous n'en avez pas autant, mais vous en avez quand même.
Alors j'en ai deux, oui.
Ah deux, oui, voilà. Spencer en a un peu plus.
Oui,
mais,
il a plus de moyens. C'est un héros de roman, c'est pas...
Oui, bien sûr. Donc une relation donc insolite entre Spencer et Walter, donc malgré l'étrangeté de la situation, comme vous l'avez dit. Et puis donc Spencer dit d'ailleurs « Tout me touchait chez Walter, comme un vieux parent, un ami d'enfance. » C'est... Il va même l'emmener à Toulouse pour l'habiller à bord de sa BMW 1938.
Oui, absolument. Oui.
Voilà. Et d'ailleurs, à la suite après son retour de Toulouse, c'est là qu'il va commencer, que Spencer va commencer à avoir des doutes suite aux paroles du commerçant qui a habillé Walter.
Chez Pelfig.
Ah oui, voilà.
Rien à voir avec Nadia.
Oui.
D'accord.
Et donc, voilà. Et donc, il se rapproche. Alors, dans ces périodes de doute, eh bien, Spencer se rapproche de ses animaux, Castor et Pollux, donc les ânes, et puis de son chat Wilson, pour avoir un peu de leur soutien sans faille, parce que, eh bien, oui, les animaux comprennent les humains et leur désarroi.
Ah, ça, c'est clair.
Je suis totalement convaincu.
Les ânes et les chats, mais en particulier les ânes, ont une capacité à deviner votre état d'esprit, si vous êtes triste, si vous êtes enjoué, et ils s'adaptent en fonction de votre tempérament. C'est extraordinaire.
Un peu comme les chevaux aussi. Hein.
Mais l'âne a quelque chose de très particulier. Moi, il se comporte avec moi. Il suffit qu'il me voie, qu'il m'entende. Alors, est-ce que je dégage ces phéromones, je ne sais pas, etc. pour que leur attitude soit... Quand ils sentent que je suis fatigué, que je suis pas en forme, etc., ils vont devenir très doux. Quand ils me sentent très péchu, ah, ils vont être un peu excités. Enfin, c'est très, très marrant.
C'est vraiment comme un miroir.
Quoi, ah, moi, j'ai une relation... je considère les animaux comme mes égaux. Voilà. Donc, et même les poules. Les poules, Dieu sait si on dit que c'est pas très intelligent. Mais je suis désolé. Moi, j'ai.
Elles s'affrontent des œufs.
Elles s'affrontent des œufs, mais.
Déjà,
tu vois, j'ai un jeune coq, là, qui me regarde, qui me suit quand je vais dans le jardin, qui regarde ce que je fais, qui essaie de comprendre. Alors, on sent que c'est difficile parce qu'il a deux secondes de mémoire vive, mais on voit qu'il essaie de comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Je trouve ça, les animaux, j'apprends beaucoup des animaux et je leur dois beaucoup.
Très bien. Donc, Castor et Pollux et Wilson pour ce livre-là. Ils sont bien présents. Alors, comme je disais, Spencer se pose aussi la question, qu'aurais-je fait si j'avais été à sa place? C'est une question aussi qu'il se pose, bien sûr.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de juger des événements avec 50, 70, 80 ans de recul, c'est toujours très très difficile. Et je pense en particulier, ça n'excuse absolument en rien leur comportement, à tous ces soldats allemands qui ont pratiqué des exactions, que ce soit contre les juifs en Europe de l'Est, lors de la Shoah par balle, que ce soit contre les populations soviétiques qui étaient massacrées. Ils obéissaient à des ordres. C'était horrible ce qu'ils faisaient. Est-ce que pour autant, 70 ans après, on peut les juger avec le recul du temps? J'ai quelques doutes.
Est-ce qu'il faut replacer tout dans le contexte?
Il faut replacer tout dans le contexte.
C'est un bourrage de crâne aussi, hein,
oui,
les jeunesses hitlériennes, etc.
Il y a des soldats qui ont refusé, y compris des soldats allemands, qui ont refusé de pratiquer des massacres, qui ont été pour certains d'ailleurs punis. Mais,
ou qui se sont suicidés
mais
aussi.
Oui, absolument. Pour moi, ça reste une question ouverte. C'est compliqué de juger avec autant de recul les faits de l'époque. Moi, je dis toujours, c'est comme ceux qui ont choisi Pétain et ceux qui ont choisi De Gaulle. Chacun avait des bonnes raisons. Alors, aujourd'hui, on peut porter un jugement. Moi, je reste extrêmement prudent et humble
par rapport
à ça.
Tout à fait. Donc voilà, c'est toute cette quête de vérité. Il veut savoir, et bien sûr, on n'en dira pas plus. Hein, c'est au lecteur de découvrir le suivi de cette enquête, de cette quête. Et en plus, oui, il y a d'autres personnages aussi. Je voulais juste, voilà, la mercière, quand il va justement au village dont le nom n'existe pas, mais à Roquefabre, il croise des personnages hauts en couleur aussi, Maurice, Nativité, la mercière, ou encore Honoré, qui vont l'aider aussi quelque part dans son enquête, dans sa quête. Et puis, j'ai bien aimé aussi, dans ce village, sur la place du village, il y a pour nous, c'est une antique, mais à l'époque, on est en 75, ne l'oublions pas, la cabine téléphonique.
Oui, absolument.
J'ai aimé ce petit clin d'œil. Il faut se replacer dans le contexte. Pareil, il y a une allusion aussi à Simone Veil. On replonge à la fois en 1975 et à la fois en 1944. Donc, c'est une double plongée dans le passé.
J'ai toujours du mal à situer, d'ailleurs, à ce jour, je n'ai encore jamais fait. Tous mes romans se situent dans le passé. J'ai du mal avec le présent. Je ne dirais pas comme Michel Sardou que je déteste l'époque actuelle. Quoique, il y a un certain nombre de points sur lesquels je serais tenté de partager son point de vue, mais je suis beaucoup plus à l'aise dans le passé que dans le présent. Allez savoir pourquoi.
Oui,
ma mère disait que je m'étais probablement trompé de siècle.
Ben non, écoutez, on vous a, vous écrivez, on aime vos livres, donc non, c'est très bien comme ça. Okay. Mais elles ont le passé est nécessaire.
Pardon, oui.
Le passé est nécessaire. Et puis, comme disait la sagesse de Lucien, qui disait, je crois, à un moment, que quelqu'un qui ignore son passé, c'est quelqu'un qui a les deux pieds dans la tombe.
Oui, absolument. Oui.
Voilà, donc c'est important le passé. Ouais. Il faut en parler. Il y a aussi le travail de mémoire, la transmission. Heureusement, c'est bien, c'est important. Enfin, moi, je trouve que c'est important. Et alors, donc, pour terminer, ce livre, il était important pour vous à écrire ?
C'est-à-dire ?
Pour vous personnellement,
pour moi, chaque livre est un.
Chaque livre est important.
C'est
une nécessité.
Pour moi, écrire, il y a des gens qui disent. Je vis pour écrire, moi j'écris pour vivre.
D'accord.
C'est-à-dire que par exemple, ça fait un an que j'écris plus, j'ai arrêté, là, parce que j'ai deux livres qui sont prêts à être édités. Je me remets à écrire en début d'année prochaine, mais je suis complètement désemparé. Je ne peux pas vivre sans écrire.
D'accord, c'est un besoin, une nécessité.
C'est comme de respirer, de manger, de boire, etc. C'est un besoin. Je ne peux pas. Ne pas vivre sans écrire. J'ai décidé de faire une pause parce que j'ai deux romans qui sont donc terminés, parce que j'ai pris un peu d'avance. Et puis, celui que je vais écrire est un livre difficile, très difficile à écrire. Et je voulais me donner un peu de temps, me mettre en jachère,
pour que ça mûrisse.
C'est obsessionnel. Vous voyez, même en venant ici, là. Mais si je n'y ai pas pensé 4-5 fois à ce que j'allais écrire, est-ce que je l'écris à la première personne, est-ce que je suis le narrateur, etc. Est-ce que j'écris ça ou si t'écris ça, c'est obsessionnel.
C'est vrai que le côté narrateur, moi j'aime bien les livres où c'est écrit à la première personne.
Moi je préfère aussi, mais c'est.
Parce qu'on est vraiment dedans. Je trouve que ça.
En même temps, si vous voulez, c'est un peu compliqué
parce
que là, dans le livre que je veux faire, c'est encore une fois un livre d'aventure qui va se passer dans le Gers. Et j'ai envie de régler mes comptes avec la société, donc ça fait beaucoup de choses.
Bon, à suivre. Alors, vous reviendrez nous en parler à Page à Page
sur
Radio Occitanie.
Grand plaisir.
Alors, on se quitte avec une chanson que vous avez choisie, une chanson de John Baez, The Night That Drove Old Dixie Down.
Voilà.
Pourquoi ce choix ?
Parce que j'ai quelques années écrit. Un livre sur la guerre de sécession. Alors, j'ai écrit sous mon nom de famille, Jean-Christophe Gisbert, et j'ai une fascination extraordinaire pour la guerre de sécession,
pour cette période.
Qui est quelque chose que je continue à ne pas comprendre comment une jeune nation a pu s'entretuer dans de telles proportions. Pour moi, ça reste un grand mystère et une passion. Et la chanson de John Baez, qui est pour moi la plus belle voix de la pop. La chanson de John Baez est extraordinaire parce que elle ne porte pas de jugement, elle raconte la détresse d'un jeune soldat confédéré. C'est absolument magnifique. Si vous comprenez les paroles, profitez-en.
Merci Norman Ginsberg et pour votre livre aussi, je le rappelle, Le mystère Walter Baumer aux éditions Riva. Et puis cette chanson s'inscrit aussi comme dans le roman, on ne porte pas de jugement. Voilà, ça clôt tout à fait, la boucle est bouclée, dirais-je.
Mais merci beaucoup pour votre
merci invitation. À vous et merci à Alex pour la technique de cette émission. Adiciat. Virgil, quick, come see. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood. And I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. The night they drove old Dixie down. And all the bells were. The people were singing, they went.